Un sol majeur.
Un sol majeur.
Du Congo-Brazzaville à la Californie, en passant par la France, Alain Mabankou ne se laisse pas tourner la tête par le décalage horaire. Pour lui, l'heure est toujours à l'écriture. La sienne, qui nous enchante à chaque livre, comme le dernier intitulé Black Bazar aux éditions du Seuil, ou l'écriture des autres, qu'il enseigne à de sages étudiants américains à l'université du CLA. Quand on vit dans un pays anglophone comme vous, Alain Mabankou, est-ce qu'on a la tentation ou pas de laisser sa langue française pour écrire un roman en anglais ?
Je pense que j'essaie toujours d'écrire dans la langue qui me ressemble. De ce fait, j'ai plusieurs langues africaines, le Monokutuba, le Lingala, le Kikongo, le Lari, Viliteke. Mon seul regret, c'est que je ne sais pas écrire ces langues, tout simplement parce que ces langues ne sont pas enseignées au Congo-Brazzaville. De ce fait, la seule langue dans laquelle je puisse écrire parfaitement, en tout cas, c'est la langue française. Et je suis tellement à l'intérieur de cette langue que il m'arrive difficilement de songer un jour de traverser vers une autre langue. Ou bien ça pourrait être une décision un jour ou l'autre, mais pour l'instant, je m'exprime et j'écris dans la langue française et je ne sens pas franchir le pas. Il y a d'autres écrivains qui ont fait. Nabokov a laissé la langue russe pour écrire en anglais. Beckett a laissé la langue anglaise pour écrire en français. Je me demande comment ils ont fait, mais ça demande aussi une longue vie et une connaissance de la société de la deuxième langue. Donc pour moi, ça ne m'embête pas. Ce qui est important, c'est que je sais lire et écrire l'anglais, et donc je peux lire les traductions qu'on fait de mes livres et corriger avec les traducteurs.
Et en même temps, vous avez traduit de l'anglais un jeune auteur, Uzudina Iweala, pour son livre « Bête sans patrie » qui est apparu aux éditions de l'Olivier. Pourquoi est-ce que vous avez ressenti ce besoin de passer de l'autre côté du miroir d'une certaine façon ?
Alors, ce besoin est venu du fait que, comme je lis parfaitement l'anglais et que je le parle maintenant, je lis les textes directement en anglais. Donc, dès que je les lis en anglais, il y a une petite voix qui me dit peut-être que ça, en français, ça donnerait ceci. C'est pour cela que j'ai traduit ce jeune auteur nigérian de 25 ans, Uzudina Iweala, qui a écrit un livre magnifique, Beast of No Nation, que j'ai traduit par Bête sans patrie chez l'Olivier. C'était une belle expérience de voir comment un écrivain, l'écrivain que je suis, va traduire un autre écrivain, l'écrivain nigérian, dans une langue, en langue française, alors que le texte était écrit en anglais. C'est aussi cela, la mobilité des langues. Hein, passer d'une langue à une autre n'est pas forcément écrire dans une autre langue. La traduction est un moyen de posséder une langue et peut-être de la travestir dans le sens artistique.
Et de nous faire découvrir donc des jeunes écrivains,
voilà,
comme vous l'avez
fait.
Alors restons sur le continent américain avec votre nouveau choix musical, Aretha Franklin, qui chante I Never Loved a Man.
Oh,
I love you.
Extraordinaire Aretha Franklin et Alain Aboncou dans le studio qui joue de la musique, qui chante.
Ah oui,
effectivement, c'est... vous auriez exercé cette discipline artistique.
Oui. Moi, j'envie les musiciens. C'est de la magie d'entendre une belle voix comme ça, avec une coordination presque divine avec un instrument. La voix fait tout et Aretha Franklin est en quelque sorte même celle qui, à travers ses mélopées, nous trace finalement l'histoire des Noirs américains. Là, c'est une chanson d'amour, d'une femme qui est brisée, d'une femme qui est trompée. Mais derrière cette façade amoureuse, entre guillemets, se cache peut-être le désespoir de la femme noire américaine qui n'est pas peut-être aussi acceptée dans la société. Et moi, quand j'écoute cette chanson, eh ben, c'est l'Afrique qui est en moi, c'est cette nostalgie que je coltine comme la tortue coltine sa carapace jusqu'au bout dans l'espoir d'aller pondre ses œufs un peu plus loin. C'est ça qui ça me donne.
Aretha Franklin qu'on a vu il y a pas longtemps au moment de l'investiture de Barack Obama. Elle arborait d'ailleurs un magnifique chapeau violet. Alors effectivement, vivre aux États-Unis, ça pose une question fondamentale. La voici.
Est-ce que vous votez?
Alors,
vous ne pouvez pas voter aux États-Unis, vous n'avez pas la nationalité américaine, certes.
Voilà, je ne peux pas voter aux États-Unis, je suis résident, j'ai tenu à ne pas prendre la nationalité américaine. Donc,
Pourquoi vous dites j'ai tenu?
Mais parce que j'ai déjà une double nationalité, c'est-à-dire je suis congolais, puis français. Donc je vote dans deux pays, je ne vais pas me mettre à voter dans trois pays. Sinon
sauf
après...
si vous épousez une Américaine.
Mais je ne pense pas que ça se ferait. Je pense qu'il vaut mieux regarder les choses de loin. Donc je vote en France et je vote au Congo-Brazzaville. Je crois aussi que cela me suffit largement.
Alors vous avez vécu l'élection d'Obama au premier plan, vous étiez sur place. Quel sentiment avez-vous ressenti pour autant que c'était quelque chose d'important pour vous?
Oui, ce qui importait, c'est que l'Amérique change un peu son visage, qu'il ne soit pas toujours vu comme le policier du monde, celui qui dicte les règles et les applique parfois à son propre profit. Donc aujourd'hui, on a apparemment une diplomatie plus courtoise, un président plus ouvert, intelligent, très soucieux de l'évolution du monde, et c'est cet espoir. Moi, je n'ai même pas regardé la couleur de la peau parce que c'est une question que j'ai toujours mis derrière. Ce n'est pas la peau qui va gouverner un pays, mais c'est un homme avec sa conception qui gouverne. Peu importe la couleur du chat, pourvu qu'il attrape la souris, et on espère que Obama sera le chat qui attrapera la souris.
Visiblement, il est encore assez jeune et vigoureux pour bien attraper toutes les souris.
Oui, à 48 ans, il a le temps.
Donc la politique vous intéresse, Alain Mabankou, mais quoi d'autre?
Mais la politique m'intéresse, parce que si je ne m'intéresse pas à elle, elle risque de s'intéresser à moi, et là ça devient grave. Donc je prends toujours les devants. L'économie également m'intéresse, l'actualité en général m'intéresse, l'évolution du monde. Je suis curieux un peu de toutes ces disciplines, non pas que je veuille faire la politique maintenant. Quand je voudrais la faire, je ferai une déclaration au monde entier.
Alors, une question plus précise, écoutez.
Lorsque vous lisez le journal, quelle est la première rubrique que vous consultez?
Mais en tant qu'écrivain, je cherche toujours les pages...
littéraires.
Culture d'abord, et en particulier les pages littéraires. Donc quand j'achète un journal, ben, j'ouvre les pages littéraires pour voir les livres dont on parle, les écrivains du moment, ce qui se dit. Et après, je vais dans la culture générale, je bondis vers la musique, puis je reviens à la politique. Je lis toujours tous les journaux, mais je commence toujours par la littérature, puisque c'est toujours vers la fin. Donc, je commence toujours les journaux par la fin pour terminer plus tard sur la politique.
Puisque vous lisez donc les rubriques musicales, c'est le moment d'écouter une chanson. Alain Souchon qui interprète Rive Gauche.
Les chansons de Prévert me reviennent de tous les souffleurs de verre, l'aine du vieux ferré, les cris, la tempête, Boris vient ça s'écrit. Zelda, c'est fini, Montparnasse, Miles Davis qui sonne, Sagrego, tous les Morrison, le Nico. Rive gauche à Paris, oh mon île, oh mon pays, de musique et de poésie, d'art et de liberté. Elle s'est fait prendre, elle est prise. Elle va mourir, quoi qu'on en dise. Et ma chanson la mélancolise. Nous sommes opiniâtres à ne pas mourir, à traîner sur les berges. Venez voir, on dirait Jane et Serge sur le pont des Arts. Rive gauche à Paris, adieu mon pays, adieu le jazz, adieu la nuit. Un état dans les traités par le mépris, comme le Québec par les États-Unis, comme nous aussi.
Paris, rive gauche, Alain Souchon, ça évoque forcément la vie littéraire parisienne, puisque c'est dans ce quartier que se concentre la majorité des maisons d'édition, des cocktails, des privas où tout brille et tout frétille. Est-ce que c'est très différent de la vie littéraire américaine, Alain Mabankou?
Oui, c'est très différent, bon, surtout à Los Angeles. Je crois qu'aux États-Unis, à Harlem, ils ont dû avoir ce bouillonnement avec la Harlem Renaissance sur place. Ce qui est fort, c'est que en dehors justement de ces cocktails et des petits fours, de la rive gauche, de tout ce qui est Saint-Germain et autres, c'est aussi l'endroit qui a quand même accueilli beaucoup de pourchassés intellectuels, des créateurs. Souvenons-nous que c'est cette même rive gauche qui avait reçu les James Baldwin. On parle de Miles Davis et de son amour avec Greco. On parle de Chester Himes. C'était un endroit de culture. Tout écrivain devait passer par là. Je ne parle même pas de Senghor, de Césaire, de Sartre, de Damas. C'est tout un pont de la culture française qui est en train de s'effacer à cause justement de la disparition des librairies et de la prolifération des boutiques de vêtements. Et c'est ce que déplore Alain Souchon, qui est à mon avis un des grands chanteurs français.
Et la disparition de la grande librairie française qui était à Rockefeller Center, voilà. Et qui a été fermée.
Qui a été fermée devant presque l'immobilisme même de la France et des pays francophones. C'était un espace à préserver.
Alain Mabankou, on ne peut pas ne pas parler avec vous d'un nouveau mouvement littéraire dont vous faites partie avec un grand nombre d'écrivains, de Jean-Marie Gustave Le Clézio à Michel Lebris, en passant par Jean Rouault, la littérature monde. Alors c'est vrai que c'est un débat qui agite beaucoup le milieu de la francophonie. Qu'est-ce que vous revendiquez en quelques mots avec ce mouvement ?
Mais ce qu'on revendique, c'est tout simplement qu'on ne puisse pas considérer les autres écrivains qui viennent des espaces francophones comme les marginaux de la langue française. Les autres pays francophones ne sont pas les subalternes de la littérature française. J'ai toujours dit que la littérature française était une littérature nationale, et ce qu'on appelle la littérature francophone est une littérature internationale, continentale, étalée sur 5 continents. Donc c'est à la littérature française de reconnaître qu'elle fait partie de la littérature francophone. La littérature monde, c'est l'expression de notre génie en tant que francophone dans un espace plus vaste où se disputent les lettres hispaniques, lusophones, anglophones et autres.
Donc il faut arrêter effectivement de faire des ghettos, littérature voilà. française d'un côté et littérature francophone de l'autre, comme on peut le voir malheureusement dans certaines librairies encore, où il y a 2 rayons dans les bibliothèques. Là maintenant, il faut réunir, rassembler... ces auteurs qui ont la même langue d'écriture.
Oui, il faut éviter cette ghettoisation. Certains disent même la série sur le ghetto. Donc, il faut ouvrir la littérature et ne pas considérer qu'il y a d'un côté les littératures venues des gens qui parlent le français mais avec accent et des autres qui écrivent sans accent. Une littérature est bonne ou mauvaise, quel que soit l'endroit où elle vient.
Alors, petite question littéraire.
Si je vous demande de me réciter un poème, lequel vous vient à l'esprit ?
Je suis désolée, on n'est pas à l'école non plus, hein, c'est pas une question piège.
C'est l'école, mais je dirais toujours la même chose. Mon cœur à ta clarté s'enflamme, je sens des transports inconnus, douce lumière, es-tu leur âme ? C'est des Chateaubriand, donc c'est tout ce qui me reste lorsque je vais réciter quelque chose. Bien sûr, je peux aussi dire, je l'entendais sous ma fenêtre, jouer de matin doucement, là nous serions chez Victor Hugo, et puis il y aurait aussi, souvent pour s'amuser, les hommes d'équipage, mais c'est resté comme ça des vers compacts, mais... je n'ai plus la force de la mémoire que j'avais lorsque j'étais petit, où je récitais des longs passages de poèmes pour séduire les dames. Aujourd'hui, je préfère les écrire.
Il y a toujours un objectif quand même derrière, hein, la littérature pour séduire les dames.
Ben oui, en droit, lorsque j'étudiais le droit, on disait toujours pas d'intérêt, pas d'action. Donc vous ne faites une action que l'autre derrière s'il y a un intérêt.
Et vous avez bien retenu la leçon. Alors, Alain Mabankou, on sent depuis qu'on est ensemble que vous êtes bien partout. Vous êtes un homme du monde. Alors justement, peut-être une question géographie.
Pour vous, ailleurs, c'est où ?
Ça, c'est une question difficile.
Waouh ! Pour moi, ailleurs, c'est où ? Je pense que c'est l'endroit où je me sens le mieux pour écrire. Et c'est mélangé, puisque ça mélange à la fois le Congo, la France... et Santa Monica où je vis. Donc finalement, j'ai du mal à définir l'ailleurs. L'ailleurs, c'est quelque part où je sens que l'inspiration peut venir pour que je m'épanouisse comme un écrivain. Et cet endroit n'a pas de lieu. Cet endroit est mobile. Donc c'est à moi de créer mon ailleurs. Et je le crée n'importe où. Je suis un exilé intérieur et l'exil géographique, je ne le connais pas.
Donc cet ailleurs est en vous finalement.
Voilà, c'est en moi et c'est ça qui m'aide à écrire. C'est peut-être parce que je cherche toujours à dessiner la carte de mon ailleurs que j'écris des livres. Chaque livre a une histoire quelque part, a un lieu. verre cassé à des senteurs de la ville de Douala où je commençais à l'écrire, Mémoire de Porc-Épic, qui est à la fois le Zimbabwe où je me trouvais et la France, Lettre à Jimmy, c'est les États-Unis, Black Bazaar, c'est à la fois le 18e où je vis de, quand je ne suis pas aux États-Unis. C'est ça aussi l'ailleurs, une addition des lieux géographiques qu'on ne peut pas contenir dans un seul endroit et on est obligé de les fragmenter, de les apporter avec soi, de les emporter avec soi comme des pièces d'un Scrabble qu'on finit par reconstituer.
Donc finalement, être écrivain, c'est avoir le don d'ubiquité ?
Il faut être à la fois ici et là-bas, sans pour autant se dire qu'on a perdu son âme. C'est ça qui est essentiel.
Y a-t-il en France un coin qui vous rappelle votre pays d'origine ?
Ah oui, là, c'est directement lorsque je suis à Château-Rouge, évidemment. C'est pour ça que j'ai choisi de vivre dans...
Alors, Château-Rouge, il faut préciser à nos auditeurs que c'est un quartier parisien.
Du 18e arrondissement, quartier dans lequel on trouve un marché par terre, beaucoup d'Africains, de Congolais, de West-Africains, de Chinois et autres, qui vendent les produits du pays, du Congo, de l'Afrique, par terre. Donc, je retrouve une population qui ressemble à celle que j'ai croisée au Congo-Brazzaville. Je retrouve le foisonnement des langues. C'est pour cela que, pour moi, Château-Rouge, cet endroit est essentiel. Chaque fois que je viens, j'aime me mêler à cette foule, aller manger dans des petits restaurants tellement petits qu'on est serré, mais on mange tellement bien. Ce qui compte, ce n'est pas l'espace, mais c'est la qualité de la nourriture qui me rappelle les saveurs culinaires de ma mère, Pauline.
Et c'est le cadre géographique aussi de votre nouveau roman, ça,
le cadre géographique
de Black Bazaar.
Voilà, Black Bazaar se déroule dans cet espace du 18e arrondissement, Château Rouge, Château d'Ouau, Max Dormois, et c'est aussi l'hommage que je rends à ces Afriques qui sont grevées, qui sont accolées à la France et que personne parfois ne chante.
Et vous avez l'impression avec ce roman d'avoir donné un peu plus de visibilité justement à ces communautés qui sont comme ça
Oui, je pense que le roman Black Bazaar a donné une visibilité à ce quartier, un autre regard à ce quartier. La preuve c'est que ces derniers temps j'ai assisté à la télé à beaucoup de reportages sur ce quartier. Seulement ils ont oublié de me payer les droits d'auteur, c'est moi qui en parle.
C'est vous le grand ethnologue, voilà. Ethnographe on va
voilà.
dire.
Donc j'ai commencé à parler à Châteauroux, Château d'eau, de ces lieux, et tout de suite il y a des reportages. Seulement lorsqu'on fait des reportages à la télé, c'est orienté toujours vers une espèce de délinquance, de catastrophisme. Mon livre, c'est la vie des personnages du 18e arrondissement de Château Rouge. Ces Africains, ils vivent, ils aiment, ils se chamaillent, ils se réconcilient, ils parlent de politique, critiquent le gouvernement, les approuvent. C'est ça que je cherche dans une vie, pas simplement dire que à Château Rouge il y a la pègre, il y a les vols, mais le vol existe même dans le 16e arrondissement de Paris où les immeubles sont des immeubles des riches. Le vol n'a pas été inventé par les pauvres, tout simplement.
Et vous, vous y mettez toute la poésie de ce quartier.
C'est essentiel pour vivre. La poésie restera toujours notre bouée de sauvetage.
Merci beaucoup, Alain Mabankou. Je rappelle donc que votre nouveau roman, dans toutes les librairies de France, du Congo-Brazzaville et des États-Unis, s'intitule Black Bazaar, qu'il est publié au Seuil. Merci aussi à toute l'équipe d'En Sol Majeur, Caroline Filliette, Cédric Ossuire qui a réalisé l'émission, Mathieu qui était à la technique. Et comme on a eu un grand plaisir à vous recevoir et qu'on ne veut plus vous quitter, on se sépare avec un titre emblématique, immortalisé par Jacques Brel, adapté par Nina Simone, un vrai mélange des cultures. Votre dernier choix musical, Alain Mabankou, Ne me quitte pas.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peu souliers qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois, coup de pourquoi le cœur tout bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'enfilerai des perles de pluie, venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai en demain où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tout sera.
la reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois le cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce voir mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vu. Il est paru-t-il des terres brûlées dont n'a plus de blé qu'en meilleur avril. Et combien le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je me cacherai là à te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas.